VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Au Togo, le dialogue est ouvert entre le pouvoir et l'opposition sous l'égide du président ghanéen Nana Akufo-Addo.
Dialogue qui va faire que le peuple togolais de s'exprimer librement et de choisir le dirigeant dans une manière transparente et libre.
En Guinée, deuxième semaine de grève des enseignants, les manifestations se poursuivent. Un gendarme a été tué. Au Niger, deux journalistes et un conseiller du président interpellés. Ils sont accusés de propagande ethno-régionaliste.
Toutes les histoires peuvent être belles, c'est le traitement. Tout a été dit, tout a été fait dans le monde, c'est le traitement. Moi, ce que je peux dire tout simplement, à chaque fois qu'on fait ces films, ce que je ne trouve pas beaucoup dans le cinéma africain actuel, c'est à qui on veut parler et qu'est-ce qu'on dit de nos films.
Ouaki n'est plus le 7e art en deuil avec la mort du réalisateur burkinabé Idrissa Ouédraogo. Dans la Minute Éco, le Burkina Faso veut injecter plus de 154 milliards de francs CFA au plan d'urgence pour le Sahel. Et bien sûr, ne ratez pas les sports, mais tout d'abord, le journal. En Centrafrique, la ville de Bria, dans le centre-est, est encore en proie aux violences. Une trentaine de corps ont été repêchés ces derniers jours dans deux cours d'eau de la ville, selon des sources humanitaires. Des personnes qui auraient été tuées par des rebelles de l'ex-Séléka, Freeman Sipila.
Selon une source humanitaire contactée par VOA Afrique, au moins 19 corps sans vie ont été repêchés dans la rivière Lakoto et 13 autres dans le Marigo Pende. Il s'agirait tous des déplacés qui ont tenté de regagner leurs habitations, profitant du calme apparent qui règne depuis quelques semaines dans la localité. Les cadavres ont été vus, selon des témoins, dans le secteur de l'ancienne direction des mines au quartier Lassimi. D'autres sources ont évoqué cependant une dizaine de morts sans parler de tueries de masse. D'après une autorité locale de Bria, deux journalistes européens en reportage et circulant sur la rivière Koto à Pirogue ont été interceptés et tabassés par des ex-Séléka avant d'être relâchés. Leurs équipements de travail, caméras, photos et autres ont été détruits. Le député de Bria 1, Arsène Kongbo, qui mène actuellement une sensibilisation en faveur de la paix dans cette ville, confirme avoir été mis au courant de cette affaire, mais il n'a pas donné plus de précisions. Bria est l'une des villes de la République centrafricaine qui échappe encore au contrôle du pouvoir central. La situation humanitaire y est catastrophique, vu le nombre des déplacés internes, plus de 60 000. Freeman Sipila Bongi, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'épiscopat a demandé aux Congolais de demeurer debout et vigilants à 6 jours d'une 3e marche pacifique à l'appel d'un collectif catholique pour le départ du président Kabila. L'épiscopat demande aux autorités d'annuler les interdictions des marches ainsi que les poursuites et les menaces à l'endroit des organisateurs. La 3e marche est prévue dimanche à l'appel d'un comité laïque de coordination proche de l'Église. Au Tchad, appel à une journée sans presse à partir de mercredi. L'Union des journalistes tchadiens et toutes les organisations des médias manifestent contre les violations faites aux journalistes. Selon le président de l'Union des journalistes, les journalistes locaux et les correspondants des médias internationaux reçoivent régulièrement des menaces et se font agresser par des individus qui se réclament des forces de sécurité. Au Togo, après 6 mois de crise, le dialogue politique s'est ouvert lundi à Lomé entre le pouvoir et l'opposition. Les discussions vont durer une dizaine de jours. Le point avec Anastasie Toudiès.
À la cérémonie d'ouverture, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a dit que la paix, la liberté et la stabilité du peuple togolais n'étaient pas négociables. Il a fait tout son discours en français pour être bien compris par tout le monde autour de la table. Une coalition de 14 partis d'opposition et le parti au pouvoir ont finalement accepté de s'asseoir autour d'une même table. Ce dialogue doit durer une dizaine de jours. Il devrait aborder plusieurs sujets comme le rétablissement de la Constitution de 1992 qui prévoyait un maximum de 2 mandats présidentiels. Sur les réseaux sociaux et dans la rue, de nombreux Togolais sont sceptiques. Ils critiquent la tenue d'un énième dialogue dans un pays gouverné depuis plus de 50 ans par la seule famille Gnassingbé.
et on y reviendra dans les dossiers du jour. Au Niger, deux journalistes de la radio Enfani, partenaire de VOA Afrique, et un homme politique ont été interpellés ce matin par la police judiciaire. Ils sont accusés de propagande ethno-régionaliste sur les antennes de la radio de l'homme politique. Après des heures d'audition, ils ont été libérés et reconvoqués pour le mercredi prochain. Des précisions avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Les deux journalistes, Grema Boukar, directeur général, et Moudi Moussa, rédacteur en chef de la radio Enfani, ont été auditionnés toute la matinée de ce lundi par des officiers de la police judiciaire de Niamey. Selon la radio Enfani, cette audition est en lien avec la diffusion sur ses antennes de propos ethnocentristes par le président du parti nigérien pour l'autogestion, par ailleurs conseiller du président de la République, Sanoussi Tambari Jacou. Ce dernier était d'ailleurs lui également dans les locaux de la police judiciaire. En début d'après-midi, ils sont ressortis. Selon le rédacteur en chef de la radio Enfani, contacté par VOA Afrique, il leur a été demandé de se représenter mercredi matin. La diffusion de ces propos a été suivie sur les réseaux sociaux, notamment par des messages haineux et ethnocentristes qui ont amené le président de la République à instruire le gouvernement pour tout mettre en œuvre pour identifier, poursuivre et réprimer les auteurs, co-auteurs et complices. Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Au Nigeria, les 5 agents de police qui étaient accusés d'avoir tué le fondateur de la secte Boko Haram en 2009 ont été réintégrés selon un porte-parole de la police. Ces officiers étaient inculpés pour avoir tué Mohamed Youssouf, le leader du groupe Boko Haram, alors qu'il était en garde à vue en juillet 2009. Et le 7e art africain en deuil avec la mort du réalisateur burkinabé Idrissa Ouédraogo. Les hommages continuent à pleuvoir pour l'auteur d'une quarantaine de films qui lui a valu de hautes distinctions, tels que le Grand Prix du jury à Cannes pour Tilaï en 1990. Un extrait d'une interview de ce grand monsieur du cinéma fait par Roger Muntou dans le cadre du FESPACO de l'an dernier.
Il m'est difficile de juger ce que mes autres camarades font, parce que je pense que chaque film que...
Mais pourtant avec votre expérience, ça peut être votre rôle.
Oui, mais ce qu'ils ont envie de faire, toutes les histoires peuvent être belles, c'est le traitement. Tout a été dit, tout a été fait dans le monde, c'est le traitement. Moi, ce que je peux dire tout simplement, à chaque fois qu'on fait ces films, ce que je ne trouve pas beaucoup dans le cinéma africain actuel, c'est à qui on veut parler et qu'est-ce qu'on dit de nos films et qu'est-ce qu'on veut apporter au monde, c'est tout. Et l'Afrique a quoi à donner aux autres mondes? Oui, peut-être ça peut être intéressant. Mais l'Afrique, les Blancs ont dit oh, c'est l'arbre à palabre, c'est des contes, c'est machin. Mais c'est beau les contes. C'est beau l'arbre à palabre, c'est beau les discussions, c'est beau les mythes et les mythologies africaines parce que c'est l'essence du monde. C'est l'histoire de la vie.
Et si vous voulez écouter l'intégralité de l'interview, rendez-vous dans RM Show à 20h en temps universel.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, des élèves survivants de la fusillade de Floride ont annoncé qu'ils manifesteraient le 24 mars à Washington contre le non-contrôle des armes à feu. Par ailleurs, le président américain Donald Trump est favorable à un renforcement du contrôle des antécédents lors de l'achat d'une arme à feu. C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche aujourd'hui, quelques jours après cette fusillade meurtrière. Jacques Aristide.
Tandis que les discussions se poursuivent et que des modifications sont envisagées, le président soutient les efforts pour améliorer le système fédéral de contrôle des antécédents, écrit dans un communiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders. Il est notamment question d'un projet de loi bipartisan qui a été présenté pour améliorer la législation fédérale. Le FBI, la police fédérale, a reconnu avoir négligé des renseignements qui auraient pu permettre d'empêcher Nicolas Cruz, le jeune homme de 19 ans qui a tué 17 personnes dans son ancien lycée, de passer à l'acte. Pour le président Trump, c'est inacceptable. Sur Twitter, il a écrit que le FBI était trop occupé à tenter de démontrer une présumée collusion entre la Russie et son équipe de campagne pour la présidentielle de 2016. Quant aux élèves survivants de la fusillade, ils manifesteront le 24 mars à Washington et dans d'autres villes. Baptisée Marche pour nos vies, le rassemblement appellera à un contrôle plus rigoureux sur les armes à feu, un débat récurrent aux États-Unis après chaque fusillade.
Un rapport interne publié aujourd'hui par Oxfam a révélé une mission humanitaire en Haïti entachée de nombreuses dérives. Un responsable reconnaît avoir payé des prostituées. D'autres employés sont accusés de harcèlement et d'intimidation, tandis qu'un témoin a été menacé physiquement. La première ministre britannique Theresa May a réagi, qualifiant ces allégations d'horribles et bien en deçà des standards que nous pouvons attendre des associations caritatives. Et voilà, pour le journal Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le Burkina Faso veut injecter plus de 154 milliards de francs CFA au plan d'urgence pour le Sahel en 2018. Ces fonds serviront à la mise en œuvre de politiques multisectorielles dans les régions et les zones en proie à des problèmes d'insécurité. Le gouvernement cherche aussi à renforcer sa présence dans les régions les moins développées du pays. En 2017, Ouagadougou a investi 81 milliards de francs CFA pour la construction d'infrastructures sanitaires et sécuritaires. Entre 2017 et 2020, le gouvernement prévoit de dépenser 455 milliards de francs CFA pour une réponse au double défi socio-économique et sécuritaire qui secoue le Sahel. Les dirigeants de la CDAO se sont donné rendez-vous à Accra le 21 février pour accélérer le processus de création d'une monnaie unique. Les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Muhammadu Buhari du Nigeria, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Mahamadou Issoufou du Niger, qui constituent la task force, vont adopter une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre de ce programme. Plusieurs experts régionaux ont rédigé un document à soumettre aux quatre chefs d'État. La CDAO compte actuellement 8 monnaies à son sein et espère mettre en place définitivement sa monnaie unique d'ici à 2020. L'Égypte et Israël ont conclu un contrat de fourniture de 64 milliards de mètres cubes de gaz naturel pour 15 milliards de dollars. Il sera extrait des champs offshore, Léviathan et Tamar en Méditerranée. Le consortium comprenant Delek, le groupe américain Noble Energy et la compagnie égyptienne Dolphinus assurera cette fourniture.
Et c'est l'heure de la page sport présentée par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Tout d'abord, l'arbitrage vidéo sera utilisé samedi à l'occasion de la Supercoupe de la CAF.
Tout à fait, Raïssa, la Supercoupe de la CAF qui oppose les Marocains du Wydad Casablanca aux Congolais du TP Mazembe. L'assistance vidéo à l'arbitrage aurait dû même être expérimentée lors du championnat d'Afrique des Nations 2018, mais l'expérience est transformée en une simple répétition générale. Les débuts de cet arbitrage en Bundesliga en Allemagne donc et en Serie A en Italie ont été marqués par quelques confusions et de longues interruptions du jeu liées notamment à l'inexpérience des équipes arbitrales.
Plus de 80 candidatures pour le poste de sélectionneur en Guinée, Yacouba.
Et oui, Raïssa, la succession de l'AP Bangoura limogé lors du CHAN 2018 est ouverte. Et ce ne sont pas les candidatures qui manquent. La FEGIFOOT, Fédération Guinéenne de Football, dit avoir reçu plus de 80 dossiers, d'après la presse locale. Des techniciens africains, à l'instar de l'Ivoirien François Zawi, ont postulé, tout comme Diaboubo Baldé, ancien capitaine du Sili National. L'Italien Marco Simone a aussi postulé. Les Français Roger Lemaire et Michel Dussuy ont également envoyé leur dossier, de même que les Belges Hugo Bros et Paul Put.
Justement, Paul Put a démissionné de son poste d'entraîneur de l'équipe kényane.
Oui, l'annonce a été faite aujourd'hui même par la Fédération kényane de football qui avance des raisons personnelles au technicien belge. Deux mois seulement après sa prise de fonction, âgé de 61 ans, Paul Put a amené le Kenya jusqu'à la victoire de la Coupe CECAFA des Nations en décembre. Le Kenya est actuellement troisième du groupe F dans les éliminatoires de la CAN 2019 par le CHAN et va rencontrer le Ghana, leader de la poule, le 7 septembre à Nairobi.
Et pour finir en Europe, les matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions se poursuivent demain.
Un choc retient toutes les attentions, Raïssa. Chelsea FC Barcelone, un choc qui semble se résumer en un exploit ou la porte à la fin de la saison pour le technicien italien de Chelsea, Antonio Conte. Mission moins compliquée par contre, a priori, pour York. Heinkes, ça va arriver en allemand, l'entraîneur du Bayern Munich qui dit avoir son effectif au quasi complet pour la réception du Besiktas, seulement qu'à l'appel Manuel Neuer en phase de rééducation après sa fracture du pied en avril, rouvette en août.
On va y arriver. Merci beaucoup Yacouba Ouedraogo pour cette page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Aux États-Unis, un mouvement étudiantin se met en marche pour exiger un contrôle plus strict sur les armes à feu. Des élèves survivants de la fusillade de Floride manifesteront fin mars à Washington, baptisée « Marche pour nos vies ». Elle vise à demander une loi efficace pour régler la violence armée généralisée. Eric Manirakiza a joint le professeur de sciences politiques et d'économie à l'université de Princeton, Leonard Wancheton.
Avoir des enfants de 14 ans, 16 ans, maximum 18 ans, parler avec autant de passion, avec autant de clarté sur cette question-là, ça ne peut pas ne pas avoir un effet. Déjà, on a remarqué qu'un des sponsors conservateurs des Républicains, M. Hoffman, je crois, a décidé de suspendre le soutien financier aux candidats républicains tant aussi longtemps qu'ils ne vont pas prendre la décision de bannir les armes automatique pour le public. Et il y a aussi le président Trump aujourd'hui, ce matin, qui parle d'être plus ou moins favorable au background check, qui était un peu comme un tabou, quoi, donc depuis le début de son mandat. Donc je crois que déjà ça a commencé à avoir un effet et on voit que la marche du 24 mars que les jeunes là sont en train d'organiser, ça fait énormément de pression, quoi, donc sur la classe politique en général et sur les républicains en particulier.
Cette marche du 24 mars est organisée par des étudiants survivants de la fusillade. Est-ce que vous pensez que d'autres étudiants vont se joindre à ces survivants?
Absolument, absolument, parce que cet événement-là a bouleversé le pays dans son ensemble. Hein. Donc, ce n'est plus une affaire de la Floride, c'est une affaire de Connecticut, avec la fusillade qui avait eu là-bas, avec Colorado, avec un peu partout. Et puis, le problème, c'est que tout ceci, ça défie la logique, la plus élémentaire, quoi, parce qu'il n'y a aucune justification possible de permettre aux gens d'acheter des armes de guerre. Donc, dans une population, dans un pays où il y a la police, il y a l'armée, où il y a l'état de droit. Ce n'est pas possible. Je crois que les jeunes finiront par balayer donc, la classe politique, notamment les plus radicaux sur cette question des armes.
Ce n'est pas la première fusillade qui bouleverse l'Amérique. C'est une situation récurrente, mais rien n'a jamais changé.
Il faut toujours la goutte d'eau, là. En fait, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais c'est toujours ça dans toutes les situations politiques. La première fois, c'est rien. La deuxième fois, c'est rien. La troisième fois, bon, ça s'accumule. Voilà, c'est ça. C'est pas parce qu'il y a rien qu'il n'y aura rien. Il faut être vraiment optimiste. Et il faut penser que les gens, quand même, sont animés de la raison, quoi. Ça dit, les gens, on se dit, bon, voilà, aujourd'hui, c'est en Floride, demain, c'est nous. Et puis, bon, il y a beaucoup de cas similaires, hein, de fusillades qui n'ont pas eu autant d'attention. Ce que j'ai trouvé vraiment formidable, c'est vraiment le discours de ces enfants-là. C'est-à-dire la maturité, la profondeur et la détermination qui les animait. Je trouvais ça extraordinaire. Et la jeune fille Emma Gonzalez qui avait parlé hier, ça m'a vraiment rassuré, quoi, quand elle a venu de ce pays. Il y a de plus en plus de pression parmi les jeunes.
Leonard Wancheton, professeur de sciences politiques et d'économie à l'université de Princeton. Au Togo, c'est parti pour 10 jours de discussion entre le pouvoir et l'opposition à Lomé. Au cours de cette première journée, les participants planchent sur les mesures d'apaisement. Toute la classe politique togolaise espère que ces échanges permettront de trouver la solution à la crise sociopolitique dans le pays. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Enfin, le dialogue politique s'ouvre à Lomé après plus de 6 mois de crise marquée entre autres par des pertes en vies humaines. Sous la facilitation du Ghana, le parti au pouvoir et la coalition des 14 partis de l'opposition se retrouvent autour de la même table pour des discussions. Le chef de l'État ghanéen, qui a présidé l'ouverture de ces pourparlers, a appelé à une prise en compte de l'intérêt des Togolais. Nana Akufo-Addo.
Un dialogue qui va faire que le peuple togolais et leur intérêt sont bien pris en compte dans tout ce qui est fait ici. Leur intérêt pour avoir un État démocratique, un État régi par l'État de droit, un État ouvert qui permette le peuple de s'exprimer librement et de choisir le dirigeant dans une manière transparente et libre.
estima que les racines de la crise togolaise remontent à janvier 1963, le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre a appelé le pouvoir de Lomé à prendre ses responsabilités.
Notre participation aux présentes assises demeure liée à l'achèvement des mesures d'apaisement convenues. Nous en appelons à cet égard au sens des responsabilités et à la bonne foi du pouvoir togolais. Le peuple togolais meurtri, excédé, mais résolu et déterminé, est à l'écoute. Il est dehors et il espère. Il est debout et il attend. Il nous attend.
Charles Kondi Agba, le président du comité des sages de l'Union pour la République unie, a réitéré l'esprit d'ouverture de son parti.
Pour ce qui nous concerne à unir, nous venons à ce dialogue dans un esprit d'ouverture, parce que nous savons que notre intérêt à nous tous Togolais est d'arriver à résoudre dans la tolérance et le respect mutuel tous les griefs, quelle que soit leur nature.
Les acteurs politiques togolais se disent excédés par la crise et souhaitent que ce dialogue puisse aboutir à des résultats concrets.
Que par ce dialogue, le Togo puisse être gagnant, que nous puissions aboutir à des solutions durables à cette crise, à recyclage quasi permanent. Que le peuple togolais puisse renouer avec la consolidation de la démocratie.
Tout le monde doit laisser tomber les masques et parler à cœur ouvert, mais trouver des solutions qui sont dans l'intérêt de toute la population togolaise.
Nous espérons que les choses se passeront bien et que le peuple togolais s'en sortira gagnant.
Notons que les travaux du comité préparatoire du dialogue, qui ont duré 4 jours, ont permis d'élaborer le règlement intérieur du dialogue et de statuer sur les sujets devant être discutés. Les deux parties se donnent une dizaine de jours pour examiner les 12 points inscrits à l'ordre du jour. Le défi principal de ce dialogue est l'élection présidentielle de 2020, avec ou non la participation de l'actuel président de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Guinée, la grève des enseignants du préuniversitaire se poursuit et avec des manifestations violentes dans les rues. À Conakry, un gendarme a été tué dans la banlieue par des jeunes manifestants. Ces nouvelles violences sont signalées quelques heures après l'appel lancé par le gouvernement guinéen pour la fin du débrayage dans les écoles. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Le gouvernement guinéen parle de démarches, d'explications, des règles régissant le dialogue social, mais aussi de sacrifices consentis par l'ensemble des partenaires sociaux pour aboutir à des avancées majeures. Dans une communication publiée dimanche, il appelle à la fin de la grève avant de menacer de ne pas payer le salaire de tout enseignant qui persiste à ne pas se rendre en classe. Ce matin, toute tentative de reprise a été repoussée par des manifestants à Conakry. Le lycée Bouakar Biro est l'une des rares écoles où les cours ont été dispensés, mais après des heures, avec les défenseurs de la grève, Alexandre, élève de terminale.
Ceux qui n'étudient pas, parfois, ils se mettent contre nous, ils se fâchent, ils viennent pour nous perturber. On a sensibilisé nos camarades d'élèves, on leur a dit on sera confronté à tout problème. Donc attendez-vous à tout. On savait quel que soit un jour, ils pouvaient y arriver. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Ils sont venus, on leur a repoussé, ils sont repartis. Et les cours ont continué.
C'est le proviseur du lycée qui a demandé aux élèves de venir suivre les cours. Alassane Bereté ne semble pas partager le mot d'ordre de grève.
S'ils ont des enfants en Hongrie, en Espagne, en Hollande, qui laissent les enfants et les autres étudier. Vous voyez ici des vieilles qui sortent le matin à 5 heures du matin. Il y a des vieux au champ à l'heure où je vous parle. Ce sont ces enfants à qui nous avons au lycée ici. Comment un seul individu est perturbé l'avenir et ces enfants-là.
Le gouvernement avait annoncé un dispositif de sécurisation des écoles et menacé de traduire devant la loi toute personne interpellée dans une tentative de perturbation des établissements scolaires. Dans plusieurs endroits de la capitale, des jeunes manifestants ont utilisé des pierres contre les éléments des forces de l'ordre. Selon le porte-parole de la gendarmerie nationale, un gendarme a été tué. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Et on le rappelait en titre, le Burkina et l'Afrique tout entière viennent de perdre Idrissa Ouédraogo, réalisateur, producteur, grand homme du cinéma. Quel regard portent les acteurs du 7e art sur ce monument du cinéma? Les réactions à Ouaga avec notre correspondant Zoumana Wonogo.
Un monstre sacré s'en est allé, un baobab est tombé, un monument du cinéma africain s'est écroulé. Tels sont, entre autres, les qualificatifs des témoignages concernant Idrissa Ouédraogo. Alors, quels étaient les rapports entre le monstre sacré et les femmes dans le cinéma? Écoutons Azaratou Ouédraogo, chargé de production des films du dromadaire.
Idrissa et les femmes dans le cinéma. Je n'ai jamais travaillé avec Idrissa, mais en tant qu'aujourd'hui chargé de production, Idrissa est une référence en matière de production cinématographique. Et je sais aussi qu'il a coaché d'autres femmes. Il a aidé d'autres femmes à tourner, notamment Apolline Traoré. Je vois aussi que dans ses films, il donne une image positive de la femme. Quand je prends l'exemple de Tilaï, le film de Idrissa Ouédraogo qui a remporté le Talon, il parle de la violence faite aux femmes. L'actrice principale, on va dire, qui a été mariée de force après le départ de son mari et qui a essayé malgré tout de se rétablir dans ses droits. Donc Idrissa, il a participé, on va dire, à la promotion de la femme dans le cinéma.
Source d'inspiration, Idrissa Ouédraogo l'aura été pour beaucoup de jeunes dans le domaine du cinéma, suivant le témoignage de Charles-Auguste Koutou, plus connu sous le nom de comédien Pape Diop.
C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui, mais vraiment une figure emblématique du cinéma au Burkinabé que j'ai connu depuis mon bas âge, qui faisait figure de modèle et qui fait toujours figure de modèle et qui fera toujours figure de modèle, je pense. Et vraiment, c'est dommage qu'au moment où on pensait qu'il était en train de vouloir faire la consécration de ses œuvres, qu'il disparaisse aussi brutalement, qu'on l'a vu ainsi faite. On ne peut rien contre. Tout ce qu'on peut, nous reste à faire, c'est de garder en lui le caractère immortel du métier qu'il défendait.
Idrissa Ouédraogo est un comédien. Il vient juste de manquer la belle occasion de travailler avec Idrissa Ouédraogo sur un film, suivant son témoignage.
Il m'a remis le scénario rien que la semaine passée, 18 heures après, mais malheureusement, Dieu a fait sa volonté. C'est un scénario, le rêve de Sita. Voilà, donc j'avais commencé à lire, j'avais pas pu parcourir tout, mais bon, c'est un projet qu'il avait, qui lui tenait à cœur. Voilà, donc je le côtoie. Ce que je retiens de l'homme, c'est vraiment quelqu'un qui est rigoureux dans son travail. Parce qu'avec les comédiens, par exemple, Idrissa réussissait à te faire sortir de tes tripes pour donner le meilleur de toi-même.
Ce soir, à 20h, un grand hommage sera rendu à Idrissa Ouédraogo par le monde du cinéma burkinabé. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et ainsi va le monde aujourd'hui. À la mise en onde, Lionel Gaïmard. À la console, Alfredo Santos. Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site voaafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.